Chapitre 4. Jalouse. Frédéric venait de terminer sa toilette. Ses cheveux d'un blond ardent, presque roux, se massaient sous un élégant chapeau en fibre de Panama, qui donnait à sa physionomie enjouée un air plein de désinvolture, et ses formes agréables se dessinaient dans un léger pyjama à raies vertes et bleues. Le visage de la jeune fille n'offrait pas cette beauté classique qui induit à de sévères méditations. Elle était plus jolie que belle, et plus gracieuse encore que jolie. Son nez était légèrement retroussé, sa bouche un peu grande, mais son teint délicatement rosé, offrait cette fraîcheur admirable que l'on ne rencontre guère que dans certains pays scandinaves. Ses yeux étaient d'un gris très doux, et toute sa physionomie respirait la bonté, la tendresse, la joie de vivre. Un aimable embonpoint ajoutait encore à ses charmes. On devinait en elle, du premier coup d'œil, une prédisposition à tirer des éléments que nous offre la vie tout le bonheur qu'ils sont susceptibles de procurer. Heureuse, Frédéric devait aimer à faire des heureux autour d'elle. Un observateur aurait cependant remarqué, léger défaut auprès de tant de perfection, que la lèvre supérieure, un peu forte et retroussée, indiquait une certaine prédisposition à la jalousie. Mais quelle femme n'est pas un peu jalouse de ce qu'elle aime? La jeune fille se préparait à descendre à la salle à manger où, déjà, sans doute, ses amis avaient dû la précéder. Elle achevait de ranger le joli nécessaire de toilette dont elle venait de faire usage, et elle regardait l'azur profond de la mer, étale comme un lac, étincelant sous les rayons du soleil. Il commençait à faire très chaud, et Frédéric ne put s'empêcher de le remarquer. « C'est singulier, songea-t-elle. Je ne sais si je me trompe, mais on dirait que plus nous avançons vers le nord, plus la chaleur augmente. Il faudra que j'en parle à Roger. » À ce moment, on frappa légèrement à la porte de la cabine. « Entrez !» cria la jeune fille. Frédéric s'attendait à voir son ami André ou sa femme de chambre Kitty. Elle éprouva quelque surprise en reconnaissant dans ce visiteur matinal l'Irlandais Edouard Edmond, un des hommes de confiance du milliardaire Fred Jorgel. Il entra en saluant respectueusement, mais Frédéric remarqua tout de suite que ses manières paraissaient hésitantes et gênées. « Mademoiselle, fit-il, excusez-moi de vous déranger, mais j'aurai quelques mots à vous dire en particulier. »« Parlez, monsieur Edmond, dit Frédéric, dont la curiosité était vivement excitée. « Vous savez, reprit-il, que M. Fred Jorgel a pour moi une certaine estime et qu'il m'a chargé tout spécialement de veiller au bon ordre du bord, à la bonne tenue du personnel. Je ne vois pas où vous voulez en venir. J'espère que vous n'avez pas eu à vous plaindre de personne. La conduite de tous les gens de service me semble jusqu'ici absolument correcte. Permettez-moi de vous dire, mademoiselle, que ce n'est pas tout à fait mon opinion. Pour vous parler franchement, la conduite de Mercedes, la femme de chambre de mademoiselle de Maubreuil, est absolument scandaleuse. » Elle a des allures un peu vives, il est vrai, mais c'est une bonne fille, et je la crois incapable de se mal conduire. Puis enfin, monsieur Edmond, cela ne me regarde pas. C'est plutôt à mon ami André que vous devez vous adresser, ce me semble. Vous verrez que c'est vous, surtout, que la chose intéresse. Comment cela ? S'écria la jeune fille qui commençait à s'impatienter de toutes ses précautions oratoires. Dites-moi vite quel crime a commis cette pauvre Mercedes. Elle lance continuellement des œillades aux matelots, mais ça ne serait rien. Hier soir, elle avait, à ce que j'ai supposé, donné rendez-vous à l'un de ses hommes. Une discussion s'est élevée entre eux. Le marin a tiré son couteau et, sans l'intervention de M. Roger Ravenel, qui a mis l'ivrogne à la raison, ce rendez-vous galant aurait peut-être fini de la façon la plus sanglante. Frédéric se sentit le cœur serré. « Monsieur Ravenel est intervenu ? » répéta-t-elle d'une voix faible. « Oui, mademoiselle. Il a désarmé le brutal et il a porté secours à Mercedes qui s'est évanouie dans ses bras. Elle l'avait pris par-dessus le cou et... soit qu'elle ne sut plus ce qu'elle faisait, ce qui est possible, soit qu'elle voulut lui prouver à sa façon sa reconnaissance, elle l'embrassait, et M. Ravenel eut les plus grandes peines du monde à s'en débarrasser. » Le visage de Frédéric était devenu rose d'indignation et de colère. Un sanglot lui montait à la gorge, et ses yeux gris, si doux habituellement, lançaient des flammes. « C'est une infamie ! » s'écria-t-elle. « Je suis sûre, moi, que M. Ravenel n'a pas embrassé cette fille !» L'Irlandais demeurait tout interloqué de la fureur de la jeune fille. « Remarquez, mademoiselle, répliqua-t-il, que je n'ai pas dit que M. Ravenel avait embrassé Mercedes. C'est le contraire qui a eu lieu. Elle était affolée par la peur et il n'a pas pu l'en empêcher. » Frédéric fit un héroïque effort pour refouler les larmes qui lui montaient aux yeux. « Assez bien, M. Edmond, balbutia-t-elle d'une voix saccadée. « Je vais voir M. Ravenel. Je suis certaine que dans cette occasion, il n'a fait que ce qu'il devait faire. » « Ne trouvez-vous pas, mademoiselle, dit encore l'Irlandais, qu'une fille de ce genre ne peut demeurer au service de mademoiselle de Maubreuil ? Et qu'il serait prudent de la reléguer dans les cabines du personnel où je pourrais surveiller plus aisément ses faits et gestes. » Il ajouta après un moment de silence. « Je ne me permettrai pas, mademoiselle, de vous donner un conseil. Pourtant, ne croyez-vous pas qu'il serait préférable d'éloigner, comme je vous l'ai dit, Mercedes sous un prétexte et de ne rien dire à M. Ravenel ? La colère de Frédéric ne demandait qu'un prétexte pour déborder. « Que voulez-vous insinuer par là ? » s'écria-t-elle, le visage pourpre d'indignation. « Craignez-vous donc que M. Ravenel ne prenne la défense de cette fille ?»« Mademoiselle, je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Et d'ailleurs, n'est-ce pas vous, M. Edmond, qui avez arrêté cette Mercedes et qui vous êtes porté garant de sa moralité ?» L'Irlandais baissa piteusement la tête. « Je me suis lourdement trompé, » bégaya-t-il en battant en retraite. « Mercedes possède d'excellents certificats. Retirez-vous, monsieur. Je vous ai dit que je ne voulais plus rien entendre. » La jeune fille, exaspérée, ferma brusquement la porte au nez d'Edouard Edmond, qui se retira tout décontenancé. Pourtant, il était au fond enchanté de sa ruse. Il ne doutait pas qu'après une pareille dénonciation, Dorifa ne fût envoyée avec les gens de service, et ne vint habiter une de ses cabines qui se trouvait près de la sienne, et il pourrait la voir à sa disposition et l'empêcher de lui faire des infidélités. Resté seul, libre de s'abandonner à son chagrin, Frédéric pleura à chaudes larmes. « Roger ne m'aime pas !» balbutia-t-elle entre deux sanglots. « Il fait la cour à cette fille. Ce coquin d'Irlandais ne m'a pas tout dit. Mais j'en sais assez. C'est indigne. Si Roger a fait cela, il mériterait que je rompe avec lui. Et je romprai. Mon Dieu, que je suis malheureuse !» Après avoir versé un torrent de larmes, Frédéric finit par se calmer un peu. Mais elle demeurait mortellement triste. La révélation de l'Irlandais l'avait atteinte en plein cœur. Elle lava ses yeux rougis pour qu'on ne s'aperçût pas qu'elle avait pleuré et descendit enfin à la salle à manger. « Comme tu as l'air de mauvaise humeur, » lui dit André de Maubreuil, « je te trouve ce matin la figure toute chiffonnée. »« J'ai très mal dormi cette nuit, » répliqua Frédéric pour couper court à toute explication. « On dirait que vous avez pleuré. Vous avez les yeux rouges, » dit à son tour Roger Ravenel. « Pourquoi voulez-vous que j'aie pleuré ?» lui fut-il répondu d'un ton glacial auquel il ne comprit rien. Cependant, au milieu de l'animation générale, la préoccupation de Frédéric fut à peine remarquée, et le déjeuner s'acheva gaiement, comme de coutume. Ensuite, les convives se séparèrent et la plupart d'entre eux se rendirent sur le pont pour y prendre le frais. Roger Ravenel se disposait à suivre ses amis Agénor et Pagano lorsque Frédéric l'arrêta d'un geste. « Monsieur Roger, lui dit-elle d'un ton grave auquel il n'était pas accoutumé, j'aurais quelques mots à vous dire. »« À vos ordres, mademoiselle, » répliqua le naturaliste en s'effaçant pour laisser passer la jeune fille qui le précéda jusqu'à un petit salon bibliothèque en ce moment désert. Frédéric essaya d'abord de conserver le ton cérémonieux et froid qu'elle avait pris tout d'abord. « Monsieur Ravenel, » commença-t-elle, « il est venu à ma connaissance des faits très graves. » Mais elle ne put soutenir longtemps ce rôle. La vivacité du naturel l'emporta. « Roger, » s'écria-t-elle, déjà prête à pleurer de nouveau, « ce que vous avez fait est très mal. Vous me brisez le cœur. Comment ? Vous me trompez avec une femme de chambre ?»« Oh, je vous assure, Frédéric, » protesta le naturaliste en rougissant. « Vous l'avez embrassée, je le sais. » Vous la teniez dans vos bras. Allez donc dire que ce n'est pas vrai, si vous l'osez. » Roger Ravenel aimait Frédéric de toute la puissance de son âme. Devant une pareille accusation, qui pouvait mettre à néant ses espérances les plus chères, il demeura atterré comme anéanti. Frédéric n'était pas moins ému. « Mais défendez-vous donc » s'écria-t-elle. « Vous ne protestez même pas. Alors c'est donc vrai. Roger, vous me percez le cœur. » Mais ces quelques secondes avaient donné au jeune homme le temps de se ressaisir. « Frédéric, » s'écria-t-il, la main tendue dans un geste solennel, « je vous jure que je n'ai rien à me reprocher. Rien, vous m'entendez ? Mais il ne doit exister entre nous rien qui ressemble à un mensonge. Vous allez connaître l'exacte vérité. » Très loyalement, Roger Ravenel conta dans tous leurs détails les scènes dont le pont de la Revanche avait été le théâtre la veille. Pendant ce récit, Frédéric pâlissait et rougissait tour à tour. Mais elle n'interrompit pas une seule fois le narrateur. Quand il se tut, sa physionomie s'était complètement rassérénée. Et un sourire de bonheur brillait de nouveau dans les yeux de la jeune fille. « Roger, » dit-elle, « j'ai eu bien du chagrin. J'étais persuadée que vous étiez l'amant de Mercedes. J'en ai pleuré de dépit. Cette fille m'est odieuse. Que ce soit volontairement ou non qu'elle vous ait embrassée, je ne veux pas la revoir. Il faut qu'aujourd'hui même elle quitte sa cabine pour aller avec les gens de service. Voulez-vous que je lui donne immédiatement des ordres à ce sujet ? Non, pas du tout. Je ne veux pas que vous lui parliez. Cette fille vous aime peut-être, qui sait ? Jalouse. On n'est jaloux que de ce que l'on aime. Vous m'aimez donc un peu ? En doutez-vous, méchant ? » Et Frédéric, dans un geste adorable et pudique, tendit son front à Roger qui l'effleura d'un chaste baiser. À cet instant, André de Maubreuil entrait en coup de vent dans le petit salon. « Ah ah ! » dit-elle en riant. « Je vous y prends, les amoureux. » Frédéric se recula toute confuse. « Nous étions en train de nous réconcilier, » murmura-t-elle. « Il ne faut pas que ma présence empêche que la réconciliation soit complète. » s'écria André en faisant mine de se retirer. Au reste, au contraire, ma chère amie, répliqua Frédéric, il faut précisément que je te parle. Alors je vous laisse, mademoiselle, fit Roger, qui, au fond, n'était pas fâché d'esquiver une seconde réédition des aventures de Mercédès. André écouta patiemment les confidences détaillées de son ami. Oh, tu comprends, lui dit celle-ci en terminant, qu'après ce qui s'est passé, Mercédès ne peut plus demeurer à ton service. Tu as raison, répondit André. Je vais à l'instant même lui signifier son congé. Et pourtant, c'est dommage, car elle m'était très dévouée. Veux-tu venir avec moi ? Non, car je ne serais pas capable de me contenir. Je lui dirai des injures à cette fille qui s'est permis d'embrasser mon Roger. Eh bien, soit, reste ici. Je vais seul me charger de cette corvée. André de Maubreuil retourna dans sa cabine et sonna la soubrette qui accourut aussitôt. Très calme, mademoiselle de Maubreuil lui expliqua que, tout en étant, pour son compte personnel, très satisfaite de son zèle, elle se trouvait forcée, à cause de la scène de la veille, de se priver de ses services. En entendant cet arrêt, la danseuse pâlit. Elle était à la fois humiliée et désolée, car elle était très sincèrement attachée à mademoiselle de Maubreuil qui, la commandant sans rudesse, lui faisant de temps en temps de petits présents, avait su gagner son amitié. « Moi qui avais tant d'affection pour mademoiselle, » murmura Dorifa. « Vrai, j'ai le cœur gros de quitter mademoiselle de cette façon-là. Mais croyez-vous que si je faisais mes excuses à monsieur Roger, on ne me permettrait pas de rester près de vous ?»« Impossible, ma pauvre Mercédès. Monsieur Édouard Edmond lui-même a exigé que vous alliez désormais habiter dans la partie du yacht réservée au personnel. » Au nom d'Édouard Edmond, la gitane avait bondi. Ses sombres yeux noirs lançaient des éclairs. « Comment ? C'est lui ? » s'écria-t-elle d'une voix rauque, les poings sur la hanche, dans une pose qui eût rappelé ses attitudes favorites sur les planches des music-halls. « Le misérable ! Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais vous apprendre une chose. Édouard Edmond est mon amant, et cela depuis longtemps. Et c'est pour ne pas se séparer de moi qu'il m'a fait entrer à votre service. » Elle ajouta en cambrant son torse dans un mouvement plein de fierté. « Est-ce que j'ai l'air d'une femme de chambre, moi ? Je suis une danseuse, une gitane, une fille de joie. Tout ce qu'on voudra, mais je suis pas une servante. » Sa voix prenait des intonations crapuleuses et stridentes, que mademoiselle de Maubreuil ne lui connaissait pas. La jeune fille était stupéfaite de cette soudaine transformation. « Oui, » continua la gitane de plus en plus irritée, « si Édouard Edmond veut que je revienne près du personnel, c'est pour m'avoir près de sa cabine et pour se glisser le soir dans mon lit quand tout le monde dormira. »« Taisez-vous !» s'écria André de Maubreuil, toute rougissante de cette crudité d'expression. Mais il eût été aussi impossible de faire taire la Dorifa que d'arrêter dans son cours un torrent déchaîné. Elle parlait avec une volubilité increvable, accablant l'Irlandais d'injures en toutes les langues collectionnées par elle dans tous les bouches de l'univers. André était abasourdi de ce déluge de mots argotiques, dont le sens, heureusement, lui échappait en grande partie. La danseuse était comme secouée des pieds à la tête d'une épouvantable fureur. Elle s'arrêtait quelques secondes pour reprendre haleine, puis elle se lançait de nouveau dans une kyrielle d'invectives. À la fin, pourtant, André réussit à la faire taire en l'assurant qu'elle garderait toujours un bon souvenir d'elle. Elle lui remit la somme convenue pour ses gages et, en même temps, elle lui fit cadeau d'une petite montre de femme en argent dont la gitane avait depuis longtemps grande envie. Cette munificence toucha profondément la danseuse. « Je ne suis pas digne de vos bontés, mademoiselle, » murmura-t-elle humblement. « Je vous ai trompée, mais vous avez été très bonne pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Avant de vous quitter, je vais vous donner un conseil et vous révéler un secret. Méfiez-vous d'Édouard Edmond et des autres. Il y a sur le yacht des gens de la main rouge qui vous veulent beaucoup de mal. Soyez sur vos gardes, c'est tout ce que je peux vous dire. » Avant qu'André de Maubreuil, atterré et songé à lui poser de nouvelles questions, Dorifa pirouetta sur ses talons et sortit de la cabine. André demeura quelques minutes plongé dans le silence de la consternation. Elle était persuadée que la danseuse n'avait pas menti. Une foule de petits faits, auxquels elle n'avait pas d'abord fait attention, lui apparaissaient sur leur véritable jour. « Il faut, » murmura-t-elle, toute palpitante d'angoisse, « que j'aille prévenir de tout cela M. Ravenel, M. Pagano et M. Agénor. » Sans perdre un instant, elle se dirigea vers le salon de lecture où se tenaient les trois Français.